Laudetur Jesus Christus.
Une riposte est en cours, c'est le président congolais lui-même qui l'a affirmé hier soir lors d'une allocution télévisée au sujet de l'entrée des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise dans la ville de Goma. La communauté internationale fustigée pour son inaction par Félix Tshisekedi commence, elle, à réagir. Les nouveaux maîtres de la Syrie organisent la transition politique. Ahmad El-Sharrey, le chef de HTS, a été nommé président par intérim. Tous les groupes armés ont été dissous, la constitution également. La diffusion d'une interview vaut pour un célèbre journaliste proche de l'opposition d'être incarcéré en Turquie. Son arrestation est perçue comme une nouvelle atteinte aux droits de la presse et comme une attaque directe contre le chef de l'opposition. Le pape François a reçu le clergé et les séminaristes de la province de Valence, en Espagne, touchés par des inondations meurtrières à la fin de l'année dernière. Pour le pape, la douleur et le deuil vécu par la population espagnole peut aussi ouvrir à l'espérance.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Pas question de se laisser faire. Le président congolais a affirmé qu'une riposte vigoureuse était en cours à Goma, ville de l'est de la République démocratique du Congo, prise par les rebelles du M23, appuyée par les soldats rwandais. Félix Tshisekedi a pris la parole hier soir pour s'adresser aux Congolais. Les précisions à Kinshasa de Paul Moulegua.
Aucune déclaration de guerre pour l'instant de Kinshasa contre Kigali, mais le président Félix Tshisekedi a d'abord exprimé un regret face à l'absence des sanctions contraignantes de la communauté internationale et de l'Union africaine contre le Rwanda.
Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûr d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons.
L'option de la résolution de la crise par voie diplomatique et politique n'est pas exclue.
Tout en restant fermement résolu à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires.
Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et annonce qu'une riposte est en cours. Les dirigeants congolais ne pouvaient se passer des violences ayant visé des chancelleries occidentales mardi à Kinshasa. Des ambassades, notamment de France, Belgique et des États-Unis, ont été victimes de violences quand celle de l'Ouganda a été mise à sac par des manifestants qui disaient pourtant dénoncer l'inaction de la communauté internationale.
Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère.
Le président a aussi annoncé des mesures économiques, notamment l'instruction donnée au gouvernement pour la réduction du train de vie des institutions et un appel au secteur privé pour soutenir l'effort de guerre. Pascal Moulegua, Kinshasa, Radio Vatican.
Et la communauté internationale, fustigée par Félix Tshisekedi pour son inaction, commence à se mobiliser. La SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, se réunira demain pour un sommet extraordinaire consacré bien évidemment à la situation au Kivu. La France, dont l'ambassade à Kinshasa a été prise pour cible par des manifestants dénonçant la chute de Goma, a envoyé sur place son ministre des Affaires étrangères. Il doit y rencontrer aujourd'hui le président congolais. Quant à l'Angola, elle se dit prête à organiser un sommet tripartite à condition que le Rwanda se retire du Congo. Le Rwanda, dont le président Paul Kagame a mis en garde l'Afrique du Sud, estimant que les troupes africaines actuellement présentes en RDC pour épauler l'armée congolaise n'y avaient pas leur place. Paul Kagame est même prêt à une confrontation avec Pretoria, estimant que l'armée sud-africaine travaille aux côtés de groupes armés génocidaires comme les FDLR qui ciblent le Rwanda. Les contours de la transition en Syrie se précisent. Hier, le dirigeant de facto du pays, Ahmad El-Sharrey, a été nommé président par intérim. Parmi les premières décisions prises, la dissolution de l'ancien parlement et le gel de la constitution. Les détails à Beyrouth de Paul Khalife.
Les nouveaux maîtres de Damas ont pratiquement tout dissous en Syrie ce mercredi. L'ancien parlement, l'armée du régime de Bachar el-Assad et ses services de sécurité, le parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant 60 ans et toutes les formations qui se sont alliées à lui. Les groupes armés qui ont combattu le régime, ainsi que les organes civils et militaires de la révolution syrienne sont aussi passés à la guillotine de la dissolution. Avec le gel de la constitution, Ahmad el-Sharrey devient le seul maître à bord. Nommé président de la transition, il assumera les fonctions de chef de l'État et représentera la Syrie dans les forums internationaux. Avec ses pouvoirs illimités, le nouveau maître de Damas pourra reconstruire la Syrie de demain comme bon lui semble. Sa première décision sera de former un conseil législatif intérimaire, une sorte de parlement non élu qui aura pour tâche de voter une nouvelle constitution et des lois. Ces mesures ont été prises lors d'un congrès regroupant près de 250 chefs de groupes armés et d'organes de la révolution syrienne, dont moins d'un quart étaient des civils. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et concernant la reconstruction du pays, on vient d'apprendre que le Qatar et la Syrie venaient d'avoir discuté d'un accord global justement pour l'engagement bilatéral en la matière. L'Ukraine soumise quotidiennement aux bombardements russes. La nuit dernière, des drones russes ont été lancés sur plusieurs villes ukrainiennes, dont Soumy dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées dans une zone résidentielle. 9 autres ont été blessées. L'Allemagne, secouée par l'adoption au Bundestag hier d'une motion anti-immigration permise par un vote conjoint des démocrates chrétiens et de l'extrême droite, une première depuis la Seconde Guerre mondiale qui fait réagir notamment l'ancienne chancelière Angela Merkel, elle-même démocrate chrétienne. Elle n'a pas hésité à critiquer son propre parti. C'est une erreur, selon elle, de ne plus se sentir liée par un pacte proposé par la CDU elle-même pour éviter de former des majorités avec l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, ce parti donc d'extrême droite. Nouvelle arrestation d'un journaliste en Turquie, Suat Oktas, rédacteur en chef de la chaîne d'information Halk Télé, proche du principal parti d'opposition parlementaire, le CHP. Il a été incarcéré dans la nuit. Il est accusé d'avoir enregistré et diffusé une conversation avec un expert mis en cause par le maire CHP d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Pour l'opposition, cette arrestation resserre non seulement l'étau sur les médias turcs, mais aussi sur le maire d'Istanbul, principal rival du président Erdogan. À Ankara, les explications d'un Andlouer.
Le journaliste emprisonné est poursuivi pour avoir diffusé sur la chaîne d'opposition Halk TV, sans l'accord de l'intéressé, l'interview d'un expert judiciaire mis en cause par le maire d'Istanbul. Au cours d'une conférence de presse, Ekrem İmamoğlu avait nommément accusé cet expert comptable d'être à la solde du pouvoir. Selon lui, il a été sollicité dans tous les procès pour fraude qui visent le maire d'Istanbul et d'autres maires de son parti ces dernières années. Dans son échange avec Halk TV, l'expert démentait les accusations d'Ekrem İmamoğlu. Pour le principal parti d'opposition turc, le CHP, il ne fait aucun doute que l'emprisonnement de ce journaliste est une façon pour le pouvoir de resserrer l'étau autour du maire d'Istanbul, en plus d'être une nouvelle atteinte à la liberté de la presse en Turquie. Ekrem İmamoğlu, élu du CHP à la tête de la plus grande ville turque, est le rival potentiel de Recep Tayyip Erdogan à la prochaine présidentielle, programmée en 2028, mais qui pourrait être avancée. La conférence de presse d'Ekrem İmamoğlu lui avait valu l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire, une de plus, car l'élu est déjà mis en cause dans plusieurs enquêtes et procès. L'un d'eux a abouti à sa condamnation à une peine de prison et d'inéligibilité contre laquelle il a fait appel. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Direction maintenant le Vatican où le pape François a reçu ce matin les séminaristes et formateurs de la province ecclésiastique de Valence en Espagne. Il y a 3 mois, cette région a été ravagée par des inondations meurtrières. 80 villes ont été touchées, 231 personnes sont décédées et la vie aujourd'hui n'a pas encore pleinement repris dans cette province méditerranéenne. En cette année jubilaire placée sous le signe de l'espérance, François leur a dédié cette vertu car, selon le Saint-Père Alexandra Siergan, la douleur et le deuil vécu par la population espagnole peut aussi les ouvrir à l'espérance.
Oui, car selon le Saint-Père, la dureté des épreuves traversées oblige à toucher le fond et à laisser derrière soi tout ce qui semblait jusqu'à présent nous soutenir, permettant ensuite de voir plus loin. Mais cette immense obscurité ne peut s'affronter seule et François a une pensée pour les personnes qui ont aidé les sinistrés espagnols et qui ont su les éclairer avec la tendresse de Dieu. Cependant, le passage de la tempête d'Anna n'est pas un phénomène atypique, précise le pape, mais une projection de ce que tout être humain vit lorsqu'il est confronté à une perte et qu'il se sent seul, désorienté et qu'il a besoin d'un soutien pour pouvoir aller de l'avant. C'est ici qu'intervient l'espérance, mais l'espérance n'est pas l'optimisme, explique François. Nous ne pouvons pas prendre à la légère la souffrance des gens et essayer de les consoler avec des phrases de circonstance, a-t-il déclaré. Non, l'espérance porte un autre nom, celui de Jésus. Ainsi, le pape invite à se tourner vers Jésus. Être prêtre, c'est être un autre Christ, précise le Saint-Père, c'est devenir de la boue dans les pleurs du peuple. Le pape a invité les formateurs et les séminaristes espagnols à se donner aux gens brisés, comme le fait le Christ dans l'Eucharistie.
Alexandra Siergan. Et c'est avec vous que prend fin ce journal. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.